lásku, budeš mít moc, budeš mít anděla.
André Wurman, vous êtes prof de mathématiques. Vous avez bien sûr connu le milieu universitaire lorsque vous avez étudié. Vous le connaissez toujours aujourd'hui parce que vous suivez en formation continue encore des cours à l'Université de Genève. Lorsque vous avez lu la biographie de Sonia Kovalevskaya, est-ce que quelque part c'était une surprise? Qu'est-ce que vous vous êtes trouvé dans un domaine connu, une histoire connue? D'abord, est-ce que vous connaissiez Sonia Kovalevskaya?
Je ne connaissais pas du tout Sonia Kovalevskaya. Je connaissais par contre ses maîtres et beaucoup de noms de l'époque, mais étrangement, elle, dans aucun de mes livres, son nom figurait.
Est-ce que c'est vraiment si étrange que ça?
Non, bien sûr que non.
Pourquoi?
C'est l'histoire des femmes de cette époque. Je crois qu'il y a eu plusieurs femmes qu'on connaît maintenant, mais qu'on a surtout redécouvert à notre époque, qui ont dans les histoires, l'histoire des mathématiques, l'histoire des sciences, tous ces noms ne figuraient pas.
Mais est-ce que quand vous faisiez vos études, bon, ben maintenant c'est quand même il y a un certain temps, mais même aujourd'hui quand vous y retournez, est-ce que les noms de femmes sont aujourd'hui mentionnés? Est-ce que par exemple, donc on sait juste que Sonia Kovalevskaya donc a eu cette chaire de professeur de mathématiques à Stockholm, elle pouvait en avoir nulle part ailleurs d'autres, semble-t-il, à cette époque-là. Est-ce qu'aujourd'hui des femmes dans le milieu universitaire genevois prennent cet exemple?
Dans le milieu universitaire genevois, je ne crois pas, en tout cas pas à ma connaissance. Je crois qu'en France, effectivement, maintenant, certaines femmes sont professeurs de mathématiques dans certaines facultés.
Et les étudiantes, bien sûr, évidemment qu'aujourd'hui, on n'interdit plus à personne d'étudier dans l'université. Donc ça, il n'y a plus cette limitation. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que les jeunes femmes sont plus présentes en faculté de mathématiques qu'elles ne l'étaient à l'époque
de Sonia? C'est certain. Il y a toujours moins de femmes que d'hommes. Mais il est certain qu'il y a beaucoup plus de femmes maintenant en faculté de mathématiques que même à l'époque où moi, j'ai passé l'université.
Et ça, cette évolution, elle s'est faite, à votre avis, par quoi? Parce que maintenant, on admet que les femmes peuvent être partout, c'est-à-dire que ça a été de pair avec l'évolution de la place qu'a pris la femme petit à petit dans la société. Ou est-ce que c'est parce qu'elles sont tout à coup plus géniales qu'autrefois? Elles en font encore plus qu'elles ne devaient déjà en faire à l'époque. On a toujours pensé qu'une femme, pour pouvoir avoir la place d'un homme, elle devait en faire trois fois plus.
Je dirais qu'il y a plus d'étudiantes qu'avant, mais je ne suis pas du tout certain qu'il y ait eu plus de femmes dans le métier de mathématicien. Donc, à l'université, en tout cas à Genève, il est clair qu'il n'y a que des professeurs d'université hommes.
Et qui enseignent les mathématiques au niveau où vous êtes, c'est-à-dire du collège supérieur ou peut-être du cycle d'orientation?
Alors là, je pense qu'il y a effectivement presque autant de femmes que d'hommes qui enseignent les mathématiques.
Alors, si on revient peut-être au parcours de Sonia Kovalevskaya, on peut se demander qu'est-ce qui a fait que l'on ne l'a pas connue? Pourquoi vous ne la connaissiez pas? Vous disiez que vous connaissiez ses maîtres, mais est-ce que c'est parce que la part qu'elle a fait dans les recherches, on a vu qu'à un moment donné, elle va publier une thèse qui sera reconnue, importante, et pourtant, son nom n'est pas resté jusqu'à aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est parce que ce qu'elle cherchait n'était pas suffisamment important, ou est-ce que parce qu'on a oublié systématiquement les noms des femmes quand elles avaient un rôle particulier à jouer?
Bon, je crois qu'effectivement, une des premières raisons, c'est que l'histoire des sciences a été écrite par des hommes, c'est évident. Si elle a été reconnue par les grands mathématiciens de l'époque, il n'est pas certain qu'elle ait été reconnue par l'époque elle-même.
Mais elle était reconnue par ses pairs, en tout cas.
Par ses pairs ou par certains grands mathématiciens de l'époque. Par les plus grands mathématiciens de l'époque, certainement. Elle les a connus, elle a travaillé avec eux. Et par contre, son œuvre n'est pas immense. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles on la connaît moins. Elle n'est pas immense au niveau quantitatif, parce qu'elle est morte jeune, parce qu'elle n'a pas fait que des mathématiques, elle s'intéressait à la littérature. Donc comparé à Weierstrass, enfin aux grands mathématiciens de l'époque, son œuvre est quantitativement faible.
Mais bon, il y a d'autres femmes scientifiques qu'aujourd'hui on connaît un peu mieux. Il y a bien sûr Marie Curie qui a été quand même officiellement reconnue dans son travail par le prix Nobel de physique. Mais vous avez lu, je crois, un livre qui raconte aussi l'histoire d'une autre scientifique qui est Mileva Maric, Mileva Einstein. Et toutes ces femmes, elles ont toujours disparu. Bon, Marie Curie, je crois que ce n'est pas le même exemple, mais Mileva Maric, qui sait aujourd'hui que Mileva Maric était une scientifique connue et qui a travaillé de pair avec Einstein. Alors, il y a vraiment, semble-t-il, quand même une volonté de faire disparaître ces femmes de la scène de la recherche scientifique.
Oui, d'ailleurs, quand on lit ces livres, on est toujours, c'est toujours extraordinaire de finir ces livres parce qu'on a toujours l'impression que c'est quand même une injustice réparée. C'est-à-dire que tout d'un coup, on reconnaît ces femmes qui ont existé, qui ont été importantes, qui ont fait de grandes découvertes. Mileva Einstein, évidemment, elle a été effacée par les découvertes d'Einstein, son mari, ce qui n'est pas le cas de Kovalevskaya. Quant à Marie Curie, peut-être qu'elle est plus connue parce qu'elle s'est trouvée un moment de révolution scientifique. Elle a découvert donc, l'élément de radium. Et à partir de là, il y a réellement eu une autre vision scientifique en physique, en mathématiques. Alors que l'œuvre de Kovalevskaya, certainement, passe cette dimension révolutionnaire. C'est-à-dire que les systèmes d'équations différentiels, on les voit déjà au siècle précédent et leurs études, elles finissent au XXe siècle. Donc, elles se trouvent un peu au milieu de quelque chose qui a existé beaucoup plus longtemps. Ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire. Par contre, effectivement, ces résultats sont importants et elles mériteraient évidemment d'avoir sa place parmi les grands noms des mathématiciens. Et elle mériterait même d'avoir, il y a un ou deux théorèmes fondamentaux qu'elle a trouvés, ces théorèmes devraient avoir son nom. Alors que nulle part, j'ai vu son nom dans aucun de ces théorèmes. Il y a un théorème qu'elle a trouvé qui maintenant est appelé théorème de Cauchy.
Et pourquoi ça?
Parce que Cauchy, effectivement, je ne sais plus, 25 ans avant...
Donc c'est le nom d'un mathématicien,
déjà, ça. D'un grand mathématicien, oui. Avait déjà trouvé ses résultats, avait déjà travaillé sur ce domaine des systèmes d'équations aux dérivés partiels, mais n'avait pas été jusqu'au bout de la solution, alors que Sonia est allée jusqu'au bout.
Donc en fait, on lui a usurpé son travail de recherche.
Certainement.
C'est un peu ce qui s'est passé aussi avec Mileva Einstein, si je me souviens bien de ce que vous m'avez expliqué. Elle avait co-signé, en fait, en quelque sorte, le travail qui a été présenté comme thèse par Einstein et qui était le fruit de toutes ces découvertes qui l'ont rendu si fameux. Comment se fait-il que son nom a disparu?
Alors là, on semble qu'effectivement, il y a peut-être une... il y a vraiment des gens qui ont effacé son nom, certainement, parce que paraît-il que dans la thèse originale d'Einstein, son nom était inscrit, alors que maintenant, on a cette thèse, elle était écrite, elle était retraduite dans un tas de langues, et le nom de Maric n'existe plus.
Et vous pensez que l'écriture de ces biographies va jouer un rôle dans peut-être aujourd'hui l'honnêteté intellectuelle du monde scientifique, si je puis dire, c'est-à-dire que désormais, peut-être et les femmes et les scientifiques en général seront plus attentifs à respecter le rôle de chacune de ces femmes scientifiques?
Bon, je pense. Ces livres doivent être lus, c'est ça l'important. Je ne sais pas s'ils seront lus par tous les scientifiques, mais effectivement, ils doivent être lus. On doit redonner une place à ces femmes dans l'histoire des sciences.
Vous avez l'impression que ça intéressera vos collègues mathématiciens?
Oui, je pense, j'espère. Si j'ai encore le temps de raconter une anecdote, bien entendu, après avoir lu ce livre sur l'aventure d'une mathématicienne, la première chose que j'ai fait, j'ai été essayer de retrouver dans les livres, dans l'histoire des sciences, dans l'histoire des mathématiques, voir si je retrouvais son nom. Et je ne l'ai retrouvé nulle part. Et ce matin, je me souviens tout à coup que j'ai un très vieux livre d'histoire des mathématiques écrit il y a un demi-siècle par un mathématicien de Gênes. Et bon, je regarde vite dans la table des matières, je regarde tous les noms, K, et je vois tout d'un coup que V. Kovalevskaya. Bon, je me dis, tiens, par curiosité, je vais regarder qui est V. Kovalevskaya. Je me dis, tiens, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a le même nom, qui a aussi fait quelque chose? Et effectivement, dans ce vieux livre, il y a eu un paragraphe sur l'aventure de Sonia. Donc, dans la table des matières, le nom était le nom de son mari. V, c'était Vladimir, je crois, qui était le nom de son mari.
Alors ça, c'est le comble des combles, vraiment. En tout cas, merci André Wurman pour toutes ces informations et d'avoir bien voulu accepter de lire ce livre pour que nous puissions avoir un autre point de vue pendant notre émission consacrée pardon, à la biographie de Sonia Kovalevskaya. Merci. Nigdy se, Jakube, ne budeš bát. Jakube, 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 ach. Nepoznáš úzkost, nepoznáš strach. Jakube, září den, řekni mi, že toužíš mít noc, noc a sen, mít noc a sen. Page qu'on feuillette. Vous êtes toujours dans Rome et Ménage et c'est aujourd'hui un spécial inédit en compagnie de notre amie Annette Zimmermann. L'inédit, la librairie des femmes à Genève, avenue du Cardinal Mermillot. Nous vous donnerons encore vite toutes les informations pour vous y retrouver dans les heures d'ouverture, etc. etc. Mais pour l'instant, eh bien, Annette nous propose d'entrer dans une autre histoire, l'histoire d'une autre femme russe, Elsa Triolet.
Les écrits sont précédés de leur propre légende et de la légende de l'auteur. J'ai des yeux qui sont ceux d'Elsa. J'ai un mari qui est communiste. Communiste par ma faute. Je suis un outil des soviets. Je suis une femme à bijoux. Je suis une grande dame et une souillon. Je suis soumise au réalisme socialiste. Je suis une moraliste et un être frivole qui fait du tricot, qui brode des histoires. Je suis Scheherazade, la grande romancière. Je suis la muse et la malédiction du poète. Je suis belle et je suis repoussante. On me bourre de pensées et de sentiments comme une poupée de son, sans que j'y sois pour quelque chose.
Très belle phrase d'Elsa Triolet, voilà, elle-même, évidemment.
Bien sûr, bien sûr. Et j'aimerais encore lire quelque chose qu'un ami à elle a dit le jour de sa mort, pour compléter le portrait. De tels êtres surprenants, on les croit solidement architecturés alors qu'ils sont écorchés. On les imagine invincibles comme un patriarche alors qu'ils sont fragiles comme du verre. Si les yeux d'Elsa, pour certains, ont la rigueur de l'acier, pour d'autres, ils ont la tendresse du ciel. Sous ce front qui se replie sur la pensée, brille un regard malicieux. Sur ce visage rectiligne et ferme circulent les nuances les plus féminines, comme la femme éternelle. Elsa semble être la mère de l'homme. Elle en est en même temps la petite fille. C'était donc Jean-Louis Barrault qui prononçait cela le jour de l'enterrement d'Elsa Triolet en 1970.
Alors Annette, je crois que tu as beaucoup aimé ce livre.
Oui, je pense que ça se sent. Effectivement, j'ai découvert avec beaucoup, beaucoup de plaisir Elsa Triolet. Bien sûr que tout le monde connaît un petit peu Elsa Triolet, souvent d'ailleurs par
Celui qui a aimé ses yeux.
C'est ça, et qui l'a écrit avec une puissance magnifique. Mais,
à savoir, Aragon quand même, disons.
Oui, Aragon, oui. Excuse-moi.
Disons-le quand même.
Excuse-moi. D'ailleurs, sur Il trône, avec elle, sur la couverture du livre, et ce n'est pas du tout innocent ou involontaire, bien entendu. Hein. C'est sûr qu'une des premières choses qu'on peut dire, c'est qu'il est impossible de parler d'Elsa Triolet sans parler aussi d'Aragon. Et Lily Marcoux, bien sûr, a lié, croisé, comme ils l'ont fait eux-mêmes d'ailleurs, les destins d'Elsa Triolet et de Louis Aragon dans cette biographie. Elle le fait d'une manière extrêmement subtile, extrêmement sensible, et elle ne donne jamais plus à l'un ou à l'autre. Ce n'est pas son propos. Son propos, c'est vraiment d'essayer de comprendre, en sachant qu'on ne peut jamais vraiment comprendre une telle relation et comment ces deux êtres ont été liés, mais quand même d'essayer de nous faire participer un petit peu à leur itinéraire. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir justement à suivre cette histoire, parce qu'en fait, une biographie, c'est une deuxième histoire, mais c'est aussi une histoire, ce n'est jamais une réalité vraie.
Mais Annette, alors pourquoi avoir donné comme titre quand même à cette biographie Elsa Triolet, si c'est l'histoire très imbriquée d'Aragon et d'Elsa Triolet?
Bon, il faut peut-être parler aussi du début du livre où elle a bien sûr cherché, Lily Marcoux, à nous raconter un petit peu l'enfance de Ella Kagan. Hein, en fait, le nom de jeune fille de Elsa Triolet est Ella Kagan. Et elle a très rapidement d'ailleurs quitté la Russie pour la France. Mais quand même, Lily Marcoux nous donne pas mal d'éléments sur la jeunesse d'Elsa, sur l'importance de la relation avec sa sœur, qui est donc une personne très connue aussi dans le monde artistique, puisqu'il s'agit de Lily Brick, qui a été, comme on dit, la muse de Maïakovski, qui est donc le grand poète russe du début du siècle. Et bien sûr, on apprend aussi quelles ont été les relations d'Elsa avec sa famille, avec son pays, avec ce grand poète qui était donc un petit peu son beau-frère, même s'ils n'ont pas été mariés, Lily et Maïakovski, et l'importance qu'a représenté la poésie toute sa vie. Et c'est peut-être pas... Je pense que c'était aussi très important de comprendre la relation d'Elsa avec la poésie, avec Maïakovski. Ça a été probablement le chemin pour arriver à Louis Aragon. Ou peut-être que Louis Aragon aussi, grâce à sa femme, a conquis la poésie. Ça, c'est un petit peu le mystère des relations, mais c'est dans cet esprit-là qu'on suit un petit peu l'histoire du couple. Au moment de la rencontre, il faut dire qu'Elsa a rencontré Aragon, elle n'était plus une toute jeune fille, elle avait 30 ans, elle avait vécu des choses difficiles, notamment la solitude à Paris, un premier mariage donc avec un officier français, Monsieur Triolet, sympathique par ailleurs, mais très très loin de la sensibilité littéraire d'Elsa. Très vite, ils se séparent. Et à ce moment-là, elle vit très difficilement une vie solitaire. Elle n'est pas encore un écrivain. Elle est une jeune femme qui essaye de travailler. Elle fait des bijoux, par exemple. Elle a beaucoup d'idées. Mais elle est seule. Elle est souvent triste. Et elle est toujours nostalgique. On sent une femme tourmentée et qui, toute sa vie, va porter la tristesse. Mais j'ai envie de dire, c'était une tristesse qui n'était pas réellement un fardeau. Ça faisait partie d'elle et ça lui permettait aussi de découvrir énormément de choses, d'avoir des contacts avec des gens, de lutter aussi dans une certaine direction.
Et est-ce qu'on retrouve dans la biographie de Lily Marcoux ce mélange que tu nous as donné dans l'extrait qu'elle a écrit au début, où elle mélange à la fois sa vie à elle, son engagement littéraire, et puis sa vie politique, puisque couple a été très marqué politiquement.
Bien sûr, d'ailleurs.
Ils se sont affichés à Moscou très souvent, par exemple.
Alors, il y a bien sûr pas mal de références aux options, disons, communistes de Louis et Elsa Aragon. Et effectivement, elle essaye de comprendre si certaines rumeurs qui ont couru longtemps, une certaine époque, et qui peut-être demeurent encore aujourd'hui, même si maintenant c'est une histoire finie, sur l'influence d'Elsa sur son mari, comme elle dit, je suis celle qui l'a provoqué, qui l'a conduit au communisme. Et elle essaye en fait de démonter cette idée-là grâce à des lettres. Elle a eu accès à un fonds d'archives Elsa Triolet. Et elle, peut, elle arrive à démontrer effectivement que c'est une histoire commune, que effectivement... De nouveau, c'est ensemble qu'ils ont essayé, qu'ils se sont intéressés à cette nouvelle donnée sociale, qu'ils ont, comme beaucoup de leurs contemporains, cru d'une manière extrêmement positive à un changement possible en, en URSS et qu'ils ont dû, après la guerre, découvrir le goulag, les procès, les aspects extrêmement négatifs qui envahissait la Russie, et ça a été pour eux un grand choc, un gros désespoir commun. Et on voit bien d'ailleurs dans, dans le livre que c'est toujours Elsa qui, plus vite que lui, s'est rendu compte des dérives, des déviances du système, qui a été attentive à ne pas croire qu'une idéologie suffisait pour rendre les hommes heureux.
Alors cette double image que peut-être le monsieur et madame tout le monde ont d'Elsa Triolet, à savoir la poétesse et puis la femme engagée politiquement, est-ce qu'au cours de cette biographie, on découvre d'autres visages de cette femme ?
Alors, c'était pas une poétesse, Elsa. Elle aimait la poésie, elle a inspiré la poésie, comme on le sait. Mais elle est un auteur de nouvelles essentiellement et de romans. Et je me suis rendu compte qu'en fait, aujourd'hui, en librairie, il n'y a, pour ainsi dire, pas d'ouvrage disponible d'Elsa Triolet. Moi, j'ai eu l'occasion d'en lire, notamment il y a bien longtemps, édité par la Guilde du Livre, qui essayait de promouvoir, en fait, une littérature un petit peu alternative. Et je souhaite bien qu'on publie des livres d'Elsa Triolet pour la redécouvrir, parce que moi, j'ai des souvenirs très, très agréables de cette lecture, mais effectivement, je dois avouer, ce n'est que des souvenirs. Et je me suis dit qu'effectivement, après avoir lu cette biographie, je n'ai plus qu'une envie, c'est découvrir des livres édités à l'époque, donc dans les années 40, 50, qui ont été des grands succès, notamment des nouvelles qui s'inspirent des problèmes de la résistance française, à laquelle elle a beaucoup participé. Des nouvelles où elle explique un petit peu l'itinéraire d'Aragon en tant qu'écrivain communiste qui s'engage et qui souvent est extrêmement critiqué par les autres et souffre de ces critiques. Et la solitude, qui est donc le thème principal en fait pour Elsa Triolet, elle a énormément parlé de cela. Et elle en parle sur un mode romanesque, très proche des choses. C'est une femme qui a raconté des choses de la vie quotidienne, avec probablement pas, ce n'est pas une découverte littéraire, mais en tout cas une découverte d'un roman social du XXe siècle qui est probablement encore à faire.
Tu viens de le préciser, Annette, Elsa Triolet est une femme qui est du XXe siècle, donc ce n'est pas comme Sonia Kovalevskaya qui a vécu le siècle d'avant. C'est donc une histoire très récente. Et comment Lily Marcoux est-elle entrée dans le récit de cette vie ? Est-ce que, comme peut-être d'autres biographies dont tu nous as parlé, elle a été retrouvée, les personnes qui ont rencontré... Enfin, comment a construit sa biographie Lily Marcoux avec plein de gens qui vivent encore, qui ont encore connu eux-mêmes Elsa Triolet, peut-être ?
Oui. Alors, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, elle a eu accès à un fonds d'archives, d'un fonds Elsa Triolet et Louis Aragon, qui est où sont notamment déposées une quantité de lettres et de correspondances, de journaux, de témoignages, d'interviews aussi. Elle a revu ou réécouté beaucoup, beaucoup d'interviews qu'Elsa Triolet et Louis Aragon ont données dans les années 60-70 aussi. Donc ça nous permet d'avoir effectivement, enfin ça lui permet à elle de nous présenter un panorama de la vie de presque plus d'un demi-siècle depuis l'enfance d'Elsa jusqu'aux années 70, puisque Elsa est morte en 1970 et Aragon quelques années plus tard. Donc en fait, effectivement, c'est pas si vieux. Et elle s'est basée sur ses interviews de pas mal de gens et sur des lettres auxquelles elle a eu accès, sur l'œuvre aussi, parce qu'il y a énormément d'œuvres, aussi bien des poèmes d'Aragon que des nouvelles d'Elsa Triolet, qui sont vraiment basées sur des événements de leur vie. Mais à part ça, la biographie, elle se déroule au fil du temps, hein,
comme
une vie, quoi. Mmh. Et on voit comment, peu à peu, notamment leur engagement pour le communisme, d'abord à l'époque de Staline, où ils étaient évidemment extrêmement sûrs que Staline allait révolutionner la vie des gens dans un sens uniquement positif, et peu à peu la manière dont ils se sont rendus compte qu'effectivement c'était du mensonge et des exagérations pas possibles.
Alors j'aurais aimé vous mettre quelques notes de musique, mais hélas,
ah si,
voilà, oui.
Non, quand même, ça vient.
J'ai blanchi toute nuit à noircir les feuilles de mes pensées. Des morceaux de ma vie, comment déchire les pages d'un cahier. Au loin, je les ai laissés partir, je les ai laissés s'envoler.
Je suis un peu de leur commerce, en attendant d'être une rue. Je suis dans les dictionnaires et dans les livres des écoles. Le scandale m'est interdit. J'ai beau crier que je l'adore et ne suis rien que ton amant. Voilà 30 ans que je suis cette ombre à tes pieds. Laver sans fin des litanies, ma perpétuelle insomnie, ma floraison, mon embellie. Ô ma raison, ô ma folie, mon mois de mai, ma mélodie, mon paradis, mon incendie, mon univers, Elsa, ma vie. Où es-tu, plaisir de ma nuit? Ma fugitive passagère, ma reine aux cheveux de fougère, avec tes yeux couleur de pluie.
Et tous ces inconnus qui les ont rattrapés ne connaissent de moi qu'une infime partie de mon infinité, et je cherche encore.
Donc c'était les mots d'Aragon pour terminer ce portrait d'Elsa Triolet, dont tu ne peux nous rappeler peut-être le titre, l'auteur et la maison d'édition.
Alors c'est une biographie écrite par Lily Marcou. Le titre est bien sûr Elsa Triolet, avec un sous-titre Les yeux et la mémoire, en hommage bien sûr à Aragon, aux éditions Plan. On peut peut-être dire aussi qu'une autre biographie d'Elsa Triolet paraît, ces jours, écrite par Dominique De Santi.
Et le livre dont nous avons parlé tout à l'heure, c'était la biographie de Sonia Kovalevskaya, L'aventure d'une mathématicienne, c'est ça?
Oui.
Écrite par
Jacqueline Détra et éditée aux éditions Belin.
Et puis nous vous avons parlé de la vie de Mile Weinstein, Une vie, c'est aux éditions Des Femmes, écrit par une femme yougoslave, je ne vous dirai pas son nom parce qu'il est imprononçable. vous demanderez le titre, on vous le trouvera. Voilà. Dans quelques instants, on vous donne encore les informations plus précises sur à quelle heure et d'ouverture vous retrouverez la librairie inédite. Ça, c'est peut-être des conventions.
Alors, nous sommes ouvertes toute la semaine. Le lundi, à partir de 14h jusqu'à 18h30. Du mardi au vendredi, 9h, midi, 14h, 18h30. Et le samedi, 10h, 13h.
Merci, Annette.